C'est marqué dans la paracha. Dans la paracha Trouma, il y a une ordonnance. Akadosh Baruch Hu ordonne au Bnei Israël de construire le Beth Amikdash, de construire en vérité ce qu'on appelle le Mishkan. Donc le sanctuaire. Le sanctuaire. Tout le monde sait ce que c'est le sanctuaire?
Je travaille là.
Le tabernacle.
La tente d'assignation.
Si tu dis tabernacle, il va faire une blague.
J'ai grand vrai.
La tente d'assignation.
Ouais, le Mishkan, donc c'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé pour qu'on le serve. D'accord. C'est ce qui va devenir le temple. Une fois qu'on entrera en Eretz Israël, qu'on aura conquis tout Eretz Israël, le temple que Shlomo HaMelech va construire, ça, c'était à l'origine dans le désert, ça s'appelait le Mishkan, ce qu'ils ont appelé le sanctuaire. Ouais. Donc il y a une ordonnance de la Torah de construire ce sanctuaire dans lequel on va servir HaKadosh Baruch Hu, on va lui offrir des sacrifices, et où Moshe Rabbeinu ira parler avec HaKadosh Baruch Hu, et où en vérité, dans lequel tout le monde pourra contacter Hachem, entre guillemets, c'était notre téléphone, quoi, directement. C'est écrit là-bas, hein, que tous les bnei Israël, Hachem, il leur ordonne de faire des dons pour construire ce Mishkan, et toutes sortes de dons, de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ce que vous voulez. Celui qui peut, il donne ce qu'il peut pour construire ce Mishkan. Et à la fin, c'est quoi l'ordonnance? L'ordonnance, elle vient, elle nous dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham » Et ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Rashi nous dit sur place « Ve'asuli mikdash ve'asulishmi bet kedusha » Ils vont faire en mon nom « Ve'asuli » Ils feront pour moi. C'est quoi pour moi? Hachem dit, c'est quoi pour moi? En vérité, même Li, c'est à moi. Pour moi. Ils vont me faire un Mikdash. Mais Hachem, il y a tout le monde entier, il t'appartient. C'est toi qui l'as créé. T'as besoin qu'on te fasse un Mikdash. Azrachi vient préciser, ça veut dire quoi? Li, ça veut dire pour moi. En mon nom. Ils vont faire pour mon nom un endroit de sainteté. Une maison de sainteté. Donc ça, c'est l'ordonnance de construire le Beth Amikdash. Ou le Mishkan dans le désert. De nos jours, ce serait le Beth Amikdash, le temple à Jérusalem. Et donc, c'est une des 613 mitzvot de la Torah, construire le temple. D'accord? On va voir qu'en vérité, la construction de ce temple, donc on voit ici, Rashi nous dit Beth Kedusha, une maison de sainteté. Donc c'est un endroit où il y a une Kedusha. Il y a une sainteté. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre là-bas une Kedusha. Dans le temple, il y a une Kedusha spéciale. Vous savez qu'il y a des lois dans le temple. Par exemple, un Kohen, il peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer ivre dans le temple. D'accord? On n'a pas le droit de rentrer ivre. Pourquoi? Parce que c'est un manque d'honneur envers la sainteté de l'endroit. On n'a pas le droit de rentrer mal habillé. Pas au niveau de Tzniut. Tu n'as pas le droit de rentrer avec ta tenue de travail dans le temple. Tu peux pas arriver, le maçon il arrive, il est plein de ciment comme ça, il rentre dans le temple, ça va rien dire. D'accord? Donc il y a des lois, hein, qui concernent la sainteté de l'endroit. On va voir que la Torah, il y a un verset, nos sages apprennent de là dans le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est un midrash sur le livre de Vaïkra. Donc le midrash, c'est écrit par les Tanaïm, hein, par les sages de la Mishnah. Il nous dit comme ça. Le passou qui nous dit, c'est dans Bechokotai. Bechokotai, vous savez que c'est une des parachutes où il y a des malédictions sur le peuple d'Israël, si on n'applique pas la Torah. Une de ces malédictions-là, c'est Vehashimoti ani et haaret, venatati et arichem hareba, et je vais donner vos villes à la destruction. Vehashimoti et mikdeshechem, et je vais détruire, je vais rendre. Comment on dit en français ça? Je vais donner la désolation. Je vais mettre la désolation sur vos sanctuaires. Sur vos sanctuaires. Alors, le Torah de Kohanim, il pose la question, pourquoi vos sanctuaires? Il n'y a qu'un sanctuaire. C'est le temple, c'est le Mishkan. C'est quoi vos sanctuaires?
Les maisons.
Hein?
Les maisons.
Pourquoi ta maison, c'est un sanctuaire?
C'est là où il y a la famille.
Tu as le droit d'être en pyjama dans ta maison?
Ouais.
C'est quoi vos sanctuaires? Le Torah de Kohanim, il dit...
Vos cœurs.
Bate Knesiot. C'est les synagogues. Vos sanctuaires, quand Hachem dit vos sanctuaires, il parle des synagogues. Non, quand est-ce qu'elles ont apparu les synagogues, on ne sait pas exactement. En attendant, on voit que déjà à l'époque de la Gemara, de la Mishnah, il y avait des synagogues, même à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas encore qu'il ne peut pas faire une prophétie sur les synagogues qui arrivent. D'accord ? Comme il n'y avait pas de temple encore, au moment où la Torah a été donnée, il n'y avait pas de temple. Donc, maintenant, il nous dit quoi le verset ici ? Hachem va désoler les sanctuaires d'Ebni Israël à cause des d'Averot qu'ils feront. Donc on nous apprend ici que quoi? Nos sages dans Torah de Kohanim, ils veulent apprendre qu'en vérité il y a un lien très profond entre la synagogue et le temple. Un lien très fort entre la synagogue et le temple. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu appelle ça un sanctuaire, lui-même. Ça veut dire, votre synagogue à vous, que vous avez construit, elle n'a rien à voir avec le temple. D'accord ? Dans le temple, on fait des sacrifices, etc. Si quelqu'un vient faire un sacrifice dans la synagogue, il va mal finir. D'accord ? Ça va mal se passer pour lui. Mais, Mikol Makom, vu que c'est un endroit où vous me sanctifiez, là-bas, c'est une maison qui s'appelle un sanctuaire. C'est la synagogue. Il y a un autre pasouk dans Yeheskel, celui-ci. Le prophète Yeheskel, il nous dit, quand Hachem nous aura envoyé chez les Goïm, donc parmi les nations, il va nous écarter de Jérusalem et nous expulser parmi les nations. Le pasouk qui dit comme ça, la reine est mort, quoi, Maradona, Elohim, ki haktim bagoyim, vechi efitzotim baratzot, vahi lahem le mikdash me'at baratzot asher baoucham. Ça veut dire quoi? Le verset, il nous dit comme ça. Hachem, il parle au prophète Yeheskel, il lui dit, ainsi tu parleras. Dis, Hachem, le Tout-Puissant, lorsque je vous ai écarté, je vous ai éloigné chez les Goïm, et je vous ai répandu dans toutes les terres de la planète, alors, de toute façon, il y aura quand même un endroit où je serai là-bas avec vous. Même si j'ai détruit mon temple, et c'est quoi cet endroit? Va'yehil lahem le mikdash me'at baratzot asher ba'usham. Et il y aura pour eux, je serai pour eux dans le mikdash me'at, dans le petit mikdash, dans le petit sanctuaire qu'ils auront dans les terres des Goïm. Donc c'est pour ça qu'on construit des synagogues, même quand on est en France. D'accord? En route ça l'arrête, on construit des synagogues. Même en Eretz Israël, puisqu'on est encore en exil aujourd'hui, on construit des synagogues pour avoir un sanctuaire dans lequel on va se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous disent les commentaires ici, c'est quoi ce Mikdash Me'at? De quoi on parle? Ce petit sanctuaire, tout le monde nous dit, tous, nous disent Abet Knesiot. C'est Abet Knesiot, c'est les synagogues. Et pourquoi? Le Metsudot David, il explique... Pourquoi les synagogues sont appelées petits sanctuaires? Et il nous dit comme ça, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on est parti en exil? Parce qu'on a dit, il n'y a pas Hachem parmi nous. D'accord? On a voulu se comporter comme si Kadosh Baruch Hu n'était pas parmi nous, et que sa protection ne régnait pas chez nous. Az Hachem, il a dit, maintenant je vais t'envoyer chez les Goïm, là-bas tu vas voir aller où ma protection. D'accord? On va voir si je te protégeais pas quand tu étais ici. J'étais pas avec toi, il n'y avait pas ma shgacha, il n'y avait pas ma présence parmi toi. Tu vas voir, sors chez les goyim et tu vas comprendre qu'en vérité elle était là, ma présence. Mais quand même là-bas, je vais te faire un endroit dans lequel tu verras ma présence. Et tu verras ma protection, dans lequel tu pourras t'entretenir avec moi. Et ça, c'est la synagogue. Ça, c'est la synagogue, d'accord? Ça, c'est le Bet Knesset. Donc on a amené ici trois versets où nos sages ont expliqué qu'on parlait des synagogues. Et de là, nos sages apprennent que les synagogues, il y a, de la même manière qu'il y a une mitzvah de la Torah de construire le temple, il y a aussi une mitzvah de construire des synagogues. De la même manière qu'il y a des mitzvot qui concernent la sainteté du temple, il y a aussi des mitzvot qui concernent la sainteté de la synagogue. On ne se comporte pas comme on a envie dans une synagogue ou dans un Beit HaMidrash. Le Beit HaMidrash, nos sages nous disent, c'est encore plus kadosh que la synagogue. Parce que là-bas, on étudie la Torah. Et donc, c'est carrément la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est répandue à l'intérieur. Donc, c'est encore plus grand que la synagogue elle-même. Donc, maintenant, il y a des lois. Il y a une mahloquette entre nos sages. Est-ce que ces lois sont des lois de la Torah dans la synagogue, dans le Beit HaMikdash, dans le temple lui-même, c'est oui, interdit par la Torah. Maintenant, toutes ces lois-là, de construire des synagogues et de se comporter avec un respect de la sainteté de l'endroit dans la synagogue, c'est une discussion entre nos sages, entre les Rishonim, les sages de il y a 1000 ans en arrière à peu près. Est-ce que c'est une ordonnance de la Torah ou est-ce que c'est une ordonnance des rabbins? Mais même si c'est une ordonnance des rabbins, de toute façon, il y a la mitzvah aujourd'hui, c'est comme ça. D'après la halakha, on doit se comporter de certaines manières dans une synagogue. On doit se comporter pas de la même manière qu'on se comporte dans la rue. On doit se comporter dans le temple, ça c'est d'après la Torah. Mais dans la synagogue, même si c'est pas d'après la Torah, c'est sûr que c'est une mitzvah des rabbins, d'accord? Et d'après le Ben Ishraï, pour ceux qui suivent le Ben Ishraï, c'est une mitzvah mina Torah. Donc lui, il a été posé que la halakha, que c'est Minatora. Là, on ramènera tout à l'heure que le fils du Rav Ovadia Yosef, il ramène les deux avis. Il y en a qui disent c'est Doraita, il y en a qui disent c'est des rabbins, c'est une loi des rabbins. Mikol Makom, on a un klal que quand il y a un doute sur une mitzvah de la Torah, on se comporte de manière plus rigoureuse. Ça fait que Doraita, la Chumra. D'accord? Si il y en a qui disent que c'est de la Torah, alors on doit considérer que c'est une mitzvah de la Torah, de peur que ce soit une mitzvah de la Torah et qu'on va s'amuser à faire n'importe quoi.
Ça veut dire même dans les lois du Beit HaMikdash, mettre une plante ou un arbre dans une synagogue, c'est interdit.
Je ne sais pas jusqu'où ça va, je ne connais pas toute la route de la synagogue. En attendant, il y en a, c'est sûr que c'est interdit. Peut-être mettre une plante aussi, c'est une grande question, comment on fait pour mettre des fleurs le jour de Shavuot dans la synagogue? Vous savez qu'il y a la coutume, c'est que le jour de Shavuot, on décore toute la synagogue avec plein de fleurs sur tous les murs, sur le Echal, etc., etc. Et les poskim posent la question, est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça ou pas? La halakha, c'est que oui, finalement, mais je crois que c'est juste parce que c'est Shavuot. Mais si c'était pas Shavuot, c'est pas sûr que tu as le droit. Maintenant, une chose qui est sûre, donc, il y a des lois à respecter. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, dans sa splendeur, il a appelé les maisons que nous on va construire, qui s'appellent des synagogues, il a appelé ça un mikdash, un sanctuaire. Donc, ici on a trouvé maintenant trois psukim qui nous disent qu'il y a une obligation de se comporter avec respect dans la synagogue, de se comporter en respectant la sainteté dans l'endroit, et il y a une mitzvah de faire des synagogues, il y a une mitzvah d'honorer les synagogues, et il y a des interdits qui accompagnent les mitzvot en question. D'accord? Toutes ces lois-là, on les connaît, beaucoup d'entre nous, on les connaît déjà. Le problème, c'est que souvent, chez encore plus nous les religieux, où on est très souvent dans la synagogue, et on est très souvent au Beit HaMidrash en train d'étudier, on les oublie. Parce que c'est comme notre maison. D'accord? C'est comme notre maison, on est là, on vient ici, on s'assoit tranquille, on boit le café, etc., etc. Mais qui t'a dit que tu as le droit de boire un café? Qui t'a dit que tu as le droit de boire un café? Donc on va voir. Quel est le but pour comprendre l'importance? Il faut comprendre quel est le but d'avoir créé un temple. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous ordonne de créer un temple? Je pose une question. Est-ce que quelqu'un sait? Pour les corbanotes? Et alors? Mais avant le temple, on faisait les corbanotes où on voulait. Il n'y avait pas besoin d'un sanctuaire pour faire des corbanotes.
Pour glorifier son nom.
Pour glorifier son nom.
C'est ce qu'on a dit avant.
Pour avoir la présence.
Il dit, pourquoi il a dit pour moi? C'est pas pour lui, le monde il a vu quoi qu'il arrive. Donc,
oui, mais est-ce que c'est ça le but? Est-ce que le but c'est pour lui? Donc, le but, à Kadosh Baruch Hu, au moment où on nous ordonne de construire le temple, en tout cas le sanctuaire, il vient de donner la Torah au peuple d'Israël. D'accord? Maintenant, on sait c'était quoi le travail des Bnei Israël pour acquérir la Torah. Ils ont dû subir l'Égypte pour travailler tout ce qu'il fallait purifier en Égypte. Après, ils sont sortis d'Égypte et ils doivent se purifier spirituellement pendant 49 jours, dans lesquels ils vont s'élever spirituellement, un travail très 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 important de sainteté, pour arriver à la réception de la Torah, qui va durer au moins 3 jours. D'accord ? Enfin, qui va durer 3 jours en vérité, du moment où ils sont complètement saints au moment où ils reçoivent la Torah, il y a 3 jours. Maintenant, on voit quoi ? Ici, ils vont recevoir la Torah. C'est... Je ne sais pas si vous imaginez, on ne peut même pas s'imaginer ce que c'est, mais... Je sais pas, des voix, vous voyez des lettres sortir du ciel, machin, tout. Bon. C'est un truc de spiritualité tellement élevé. Il y a un lien très très profond entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël à ce moment-là, à tel point que nos sages comparent la chose à un mariage. D'accord ? C'est Akadosh Baruch Hu, il épouse le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est devenu la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. On rentre sous la choupa le jour de Matan Torah. On reçoit la choupa, on reçoit la Torah, ça, on rentre sous la choupa, c'est notre ktouba. La Torah, c'est notre ktouba. Ce lien-là, si la Torah était restée juste la Torah qu'on va étudier pour pratiquer, il aurait manqué ce lien-là supplémentaire qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah, du don de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire en sorte que quoi ? Que cet endroit qui s'appelle le mont Sinaï, sur lequel régnait sa présence au moment du don de la Torah, cette présence-là va nous accompagner tout le long de nos péripéties, des péripéties du peuple d'Israël, jusqu'à la destruction du second temple. Et Be'ezrat Hashem, on reverra cette présence-là dans les jours à venir. Mais en attendant, jusqu'à il y a 2000 ans en arrière, c'est une mitzvah assez minatora. Jusqu'à il y a 2000 ans en arrière, on avait la présence divine parmi nous. De la même manière que tu avais le Har Sinaï, tu as reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que si on a une question à lui poser sur la pratique des mitzvot, etc., ou peu importe quoi comme question, j'ai un problème moi maintenant, alors qu'est-ce que je fais ? Je vais au temple et je demande au Kohen qui est là-bas, qui sert dans le temple, ou à l'époque à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il rentre à l'intérieur, il pose la question à Hachem, il ressort avec la réponse. D'accord ? Et tu as ton lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Quel est le but du temple ? Faire résider la présence divine sur terre dans un endroit précis pour garder un endroit de proximité entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Ce que Akadosh Baruch Hu a appelé lui-même Bet Va'ad. Un endroit de... pas de retrouvailles, mais de réunion entre Hachem et son peuple. Ça, c'est le temple. Et c'est pour ça qu'après que le temple ait été construit, on a le droit de faire des korbanot que dans le temple. Pourquoi ? Pourquoi que dans le temple ? Parce que le korban, c'est quoi ? Korban, c'est lachon, karov, proche. Le korban, c'est ce qui sert à rapprocher le peuple d'Israël d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a fait une faute, on amène un korban pour annuler notre faute afin de pouvoir se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Lorsque tous les jours on amenait un korban le matin pour tout le peuple d'Israël, un korban le soir pour tout le peuple d'Israël, ça pardonnait les fautes de la nuit et ça pardonnait les fautes de la journée. Pourquoi ? Parce qu'il fallait rapprocher le peuple d'Israël sans cesse de son créateur. Ça, à ça sert le temple, à ça sert le Mikdash.
Comment c'est alors, une fois qu'Hachem il a fait ça, comment on peut dire, chacun on a un devoir, chacun de travailler sa mina, une fois qu'on a ça, il n'y a plus de devoir des minas, c'est trop facile, il y a Hachem qui est là tout constamment, une question, là, la réponse. L'âme, on aurait dû le travail de l'âme, mais c'est pas, il y a une part de bizarre quoi.
Parce comment il faisait Avodah Zarah à l'époque du temple ? Comment il faisait Avodah Zarah à l'époque du temple ? Si c'est trop facile d'avoir la Emouna. Ils avaient un Yetzer Hara encore 3 fois plus grand que le tien.
Sur
la Avodah Zarah et sur plein d'autres choses. T'inquiète pas. Puisque c'est marqué que même le Yetzer Hara, si c'était ça la Kavana de ta question.
Du coup, aujourd'hui, c'est éteint le Yetzer Hara d'Avodah Zarah et c'est remis dans les Arayot.
Et pourtant, nos sages, ils ont quand même crevé l'œil du Yetzer Hara des Arayot. Donc ça veut dire qu'il est plus faible qu'à leur époque. Il est plus faible qu'à leur époque, le Yetzer Hara de la débauche. Et malgré tout, il est assez costaud. Hein. Mais le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, ils l'ont tué. d'accord. Mais à leur époque, il y avait un Yetzer Hara terrible, que nous, on peut pas comprendre ce que c'est. Nous, on peut pas comprendre. Il y a une Gemara, je sais plus, je crois que c'est Ménaché avec je sais plus quel Rav, le roi Ménaché. Le roi Ménaché, pardon, Ravashi, c'était le roi Ménaché, c'était le fils du roi Hizkiyahu HaMelech, et c'était un des rois les plus réchaïm que le peuple d'Israël ait jamais connu, un des plus mécréants. Il a mis une idole dans le temple et tout. Bon, ça a été vraiment comme on peut pas imaginer des choses pareilles. Aujourd'hui, quelqu'un, il oserait rentrer avec une croix dans une synagogue, on le regarde, on dit tu fous le camp de suite, d'accord. Mais non, lui, le roi, il est venu, il a mis une idole, il a ordonné à tout le monde de se prosterner devant l'idole dans le temple. D'accord ? Dans le Saint des Saints, il a mis une idole. Maintenant, donc le roi Ménaché, il a forcé tout le peuple d'Israël à faire Avodah Zarah. C'était un des rois les plus réchaïm que le peuple d'Israël ait connu. Maintenant, il y a un rave dans la Gemara, donc, qui s'appelle Ravashi. Un jour, il a parlé du roi Ménaché comme si c'était son copain. Il a dit « Notre ami Ménaché ». D'accord ? C'est un roi, tu lui dois du respect normalement. Même s'il est mort déjà depuis 1000 ans. Mais de toute façon, tu lui dois du respect. Dans la nuit même, le roi Ménaché, il est venu en rêve chez Ravashi. Et il lui a dit, pour qui tu te prends de me considérer comme ton copain ? Parce que j'ai fait Avodah Zarah. Il lui dit, si toi tu vivais à mon époque, tu aurais soulevé le pan de ta djellaba pour partir en courant te prosterner devant les idoles. Tellement lui, il était grand. Et tu viens m'appeler ton copain ? Et là, il lui pose une question de halakha. Il lui dit, la preuve que je vais t'apprendre en plus quelque chose, donc tu pourras dire que tu as appris quelque chose de moi. Il lui dit, où on fait moti sur le morceau de pain ? De quel côté tu dois faire moti ? Sachez que c'est de halakhot qu'on a appris du roi Ménaché.
Le plus cuit, tout ça, je sais pas quoi.
Du côté le plus cuit, maintenant Ravashi il savait pas. Il lui a dit, oh, tu vois, j'ai plus de Torah que toi. Il a dit, donc tu me dois du kavod quand même. Pourquoi ? De là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'en vérité, ils avaient un Yetzer Hara de l'Avodah Zarah que nous, on peut pas comprendre. Eux, les sages, après, quand ils ont vu ça, ils ont tué le Yetzer Hara de l'Avodah Zarah. Ils ont voulu tuer aussi le Yetzer Hara de la débauche, mais ils se sont aperçus que le monde allait s'éteindre, d'accord ? Parce que plus personne voulait retourner avec sa femme. Donc ils ont ressuscité le Yetzer Hara de la débauche, juste ils l'ont affaibli. Ouais, bon, tout ça pour... En tout cas, ils avaient, oui, un Yetzer Hara, et ils devaient, oui, travailler leur Emouna aussi. Comment ? J'en sais rien, je ne vivais pas à leur époque. Je ne peux pas te dire c'était quoi leur travail qu'ils devaient faire à leur époque. Nous, à notre époque, le travail, il est... au niveau de la Emouna, il est énorme, parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, la Emouna, elle disparaîtra. Comme ça, c'est marqué dans les prophéties sur la venue... juste avant la venue du Mashiach, dans la Maseret Sota. Dans la Gemara de Sota, c'est marqué à la fin des temps, la Emouna, elle va disparaître. Et les gens, ils n'auront plus de Emouna. Et ça sera un travail d'avoir la Emouna. Ce ne sera pas de manière facile comme nos grands-mères, d'accord ? Nos grands-mères, elles touchaient la mezouza, elles m'a pleuré. Toi, tu touches la mezouza, tu dis, qu'est-ce que c'est là ? D'accord ? Tous les jours, tu mets tes tefilines, ça te fait ni chaud ni froid. Ouais ? Mais toi, ta grand-mère, tu la voyais, elle faisait une prière, elle pleurait en priant. Là, elle vaille que nous, on arrive à Kippour à verser une larme. Alors qu'on est en train d'être jugé. C'est vrai. Pourtant, c'est pas vieux, c'est il y a 50 ans en arrière. Mais à la fin des temps, plus on avance dans la fin, vers la fin des temps, et plus la Emouna elle diminue. C'est un autre travail, la Emouna, c'est encore une autre question. Maintenant, on voit quoi ? Donc, le but du temple, c'était quoi ? Le but du sanctuaire. Pourquoi Hachem nous a demandé de faire un sanctuaire ? Pour faire régner sa Shrina, sa présence dans le monde, pour qu'on ait un endroit où on puisse se retrouver avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on doit construire des Batei Knesset, pour avoir un endroit dans lequel tu peux te retrouver avec Hachem. Tu vas venir prier au Batei Knesset. Et c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, En tfilato shel adam nishma'at ela bebetei Knesset. La tfila d'un homme, elle n'est pas entendue si ce n'est dans une synagogue. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a la Shrina. Là-bas, il y a la présence. Et il y a la présence d'Hachem. Donc quand tu viens prier à la synagogue, ta tfila, elle passe directement. Quand tu pries dehors, tu pries tout seul, chez toi, machin, tout, parce que tu t'es pas levé, alors c'est un peu plus dur à faire passer. D'accord ? Mais dans la synagogue, il y a Hachem. Il y a la présence divine. Et ça, c'est tout le but de la création des synagogues, de la construction des synagogues. Le but de la construction du temple, du sanctuaire, de tout ce que vous voulez qui représente le temple, tout ce qu'on appelle Bate Knessot ou Bate Midrashot aujourd'hui, c'est faire un endroit dans lequel HaKadosh Baruch Hu peut régner, résider, et dans lequel on puisse se retrouver avec lui. D'accord ? Parce qu'on sait très bien, après le don de la Torah, on serait reparti à nos occupations, d'accord, on a la Torah, mais Hachem serait resté sur le Mont Sinaï et nous on serait parti ailleurs. D'accord ? Donc, rien qu'avec le temple, on partait déjà ailleurs. Alors, imaginez s'il n'y avait pas eu le temple, où on serait parti. Maintenant, donc, si tout le but est de faire régner la Shrina ici, dans cet endroit-là, il faut surtout pas faire des choses qui éloignent la Shrina dans cet endroit-là. Surtout pas dans cet endroit-là, tout le temps en général, dans ta maison, si tu veux qu'il y ait la Shrina aussi, il faut pas que tu te comportes n'importe comment. Mais, Nagid, chez toi, il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que ta maison, elle existe. Elle n'a pas été faite pour que tu fasses régner la Shrina. Si tu es un tzadik, tu fais régner la Shrina. Si tu l'es pas, alors bon, tu vas là-bas pour dormir. Ouais. Mais, dans la Beit HaKnesset, cet endroit, il a été construit pour ça, pour faire régner la Shrina. Donc, c'est pas maintenant nous qui venons au Beit HaKnesset qui allons la faire fuir. D'accord ? Donc, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, on va ouvrir ce que nos sages nous disent. Nos sages nous disent, dans Shabbat, et c'est aussi dans Psachim, il y a une braïta qui nous dit comme ça. Donc, le Lamdecha, on va t'enseigner quelque chose. She'en Shechina Shura. לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצווה ומתוך הלכה. Donc, j'ai sauté deux, trois les psukim qui sont ramenés pour prouver. La Mishnah, elle nous dit, la Baraita nous dit quoi? On vient t'apprendre que la Shrina, la présence divine, ne peut résider dans un endroit où il y a de la tristesse. En tout cas, chez quelqu'un où il y a, qui est triste. Ou alors, à travers la comment on dit, fainéantise, comme ça on dit,
ouais.
La paresse. Dans la paresse, il n'y a pas de Shrina. Dans la rigolade, il n'y a pas de Shrina. Dans la légèreté d'esprit, donc tout ce qu'on appelle légèreté d'esprit, c'est aussi tout ce qui est en dessous de la ceinture. Dans le fait de discuter, à travers les discussions, il n'y a pas de Shrina, des discussions qui servent à rien. Ou de parler de choses complètement futiles, il n'y a pas de Shrina non plus. Dans quoi il y a la Shrina? Que dans la Simcha Shel Mitzvah ou dans la Halacha. Ou comment la Shrina elle règne dans un endroit? Que si dans cet endroit-là, les gens sont heureux de faire des mitzvot, ou si ils étudient la Torah. Mais pas parce qu'ils sont en train de rigoler, ni en train de dire des bêtises, ni en train de parler de filles, ni en train de parler de l'OM et du PSG, ni en train d'être fatigué, ni en train d'être triste. Ça n'existe pas. La Shrina ne peut pas régner. Tu rentres au Beit HaKnesset, tu n'arrives pas triste. Tu n'es pas endeuillé. Il n'y a pas de raison que tu sois triste.
Il y a Yom Kippour.
Yom Kippour, c'est interdit d'être triste. On n'est pas triste. On ne pleure pas parce qu'on est triste. On ne pleure pas parce qu'on est triste. C'est une grande question. C'est une autre question. Mais une chose qui est sûre, on ne pleure pas parce qu'on est triste. On pleure parce qu'on fait tchouva. D'accord ? Donc on pleure du fait qu'on se rapproche d'Hachem, du fait que maintenant j'avoue mes fautes à Kadosh Baruch Hu, j'avoue mes fautes vers Hachem, donc au fur et à mesure ça m'essuie. Et le fait que je pleure, c'est ça le travail que je dois faire ce jour-là, mais pas par tristesse. Le travail que je dois faire, c'est de pleurer sur mes fautes, mais pas par tristesse, parce que j'ai pris conscience de mes fautes. Alors je pleure parce que j'ai détruit la parole d'Hachem, mais pas par tristesse. C'est ça le travail. C'est ça ce qu'on te demande, c'est de pleurer ce jour-là. Donc, on voit quoi? Toutes ces choses-là, elles font partir la Shrina. Elles font partir la Shrina. De là, on en arrive au Shulchan Aruch. On arrive au Shulchan Aruch. je suis désolé pour les âmes sensibles. Je crois que Naruch, il est un peu dur, d'accord. Il nous dit comme ça, Bate Knessot ou Bate Midrashot, donc les synagogues et les maisons d'études. Enno Hagim Ba'en Kalut Rosh, on n'a pas le droit d'avoir de la légèreté d'esprit. Kegon, c'est quoi l'exemple de la légèreté d'esprit? Srok Veitul Vesiha Betela. De rigoler, de parler de choses à Shemish mort, et de parler de choses qui servent à rien, qui servent absolument à rien. Tu as parlé de la pluie et du beau temps, d'accord? Ve'en ochlim ve'shotim ba'em, c'est interdit de boire et manger dans la synagogue. Ve'lo mitkashetim ba'em, ve'lo metailim ba'em, et on commence pas à se rhabiller, se remachin, se remaquiller, etc. dans la synagogue, ni on promène pas non plus dans la synagogue. Ve'lo nichnasim ba'em b'chama mipna chama ou b'geshamim mipna geshamim. Et c'est pas, tu rentres pas dans la synagogue pour te protéger de la pluie ou du soleil. Tu as pas le droit de faire ça. S'il pleut et que le seul endroit que tu as pour t'abriter c'est la synagogue, tu as pas le droit de rentrer pour t'abriter dans la synagogue. C'est pas un abri de bus. C'est une synagogue. Tu rentres là-bas pour prier ou pour étudier la Torah, mais pas pour t'abriter. V'talmidei chachamim, v'talmideihem mutarim le'echol ve'lishtot. Par contre, les étudiants de Torah, les talmidei chachamim et leurs élèves, eux, ils ont le droit de manger et boire dans la synagogue, parce que s'ils sortent pour, alors ça va les entraîner à moins étudier, d'accord. Mais dochak, que quand ils ont vraiment très faim, pas on amène un croissant de bijawi et de machin, y a pas de... D'accord. Bon, et on continue et on fait pas des comptes là-bas, si ce n'est les comptes de la tzedaka, parce que c'est une mitzvah, et on va pas commencer à s'amuser à faire voilà, plein de choses. On fait pas non plus des spédim dans une synagogue, on va pas non plus faire des oraisons funèbres. Et on rentre pas pour ses besoins. C'est-à-dire, tu rentres pour appeler quelqu'un dans la synagogue. Il y a quelqu'un, il est à la synagogue, et tu l'appelles pour qu'il sorte. D'accord ? Tu n'as pas le droit de rentrer pour ça. Tu rentres, tu t'assois, tu lis un verset, ou tu répètes un enseignement, une halakha qu'on t'a appris, et à ce moment-là, tu l'appelles. Et si tu connais rien parce que tu n'as pas eu la chance d'aller au Talmud Torah, alors à ce moment-là, tu t'assois ou tu restes debout un certain temps, pour montrer que tu n'es pas juste rentré pour faire tes ce que tu avais besoin, mais tu es rentré ici aussi par kavod pour Akadosh Baruch Hu. Ouais, donc bon, etc., etc., ça continue un siman entier. Donc on voit que il y a un respect à avoir de l'endroit dans lequel on se trouve quand on est dans une synagogue. Pourquoi ça s'appelle Mikdash, un sanctuaire? C'est quoi la définition de sanctuaire? C'est quoi le mot kadosh? Saint, c'est la traduction de base. Sacré, ouais. C'est quoi la définition du mot sacré?
À part.
Séparé. Ouais. Ça c'est la définition. C'est marqué Kedoshim Tiou, vous serez saint, Kekadosh Ani. Parce que moi je suis saint. Hachem nous a ordonné, à nous les juifs, Baruch Hachem, d'être saint. C'est quoi être saint? Là-bas, nous explique les chachamim, c'est quoi le mot kedoshim, prushim. Vous serez séparés. Séparés des autres nations, séparés des plaisirs interdits, ou d'après certains, même des plaisirs permis quand c'est avec abus. D'accord ? On t'a permis de manger, mais on t'a pas permis de manger tellement que tu vas vomir. D'accord ? C'est pas un comportement qu'un juif il doit avoir. Ouais. C'est pour ça que... T'as le droit de boire de l'alcool, mais on t'a pas permis d'être ivre. Mais t'as le droit de boire de l'alcool. Mais de t'enivrer, c'est complètement interdit. Tu as le droit d'aller avec ta femme, on t'a pas demandé de considérer ta femme comme une prostituée. D'accord ? Tu n'as pas le droit. Mais tu as le droit d'aller avec ta femme, on t'a interdit d'être un curé. On t'a obligé d'avoir une femme. Ouais, mais il y a des limites dans les choses. Donc, on voit quoi ? Kedoshim, ça veut dire être séparé de tous les plaisirs un peu ou interdits ou permis avec abus de ce monde-ci. Donc c'est quoi un mikdash? C'est un endroit qui est séparé de toutes les bêtises de ce monde-ci. D'accord? Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre qu'il y a une règle claire dans la Torah. La spiritualité ne correspond pas aux bêtises de ce bas monde. ça peut pas aller ensemble. Et c'est pour ça que nous les juifs, on a la mitzvah de prendre, comme nous a dit tout à l'heure, la matérialité et l'élever au niveau de la Torah. Élever la matérialité à la spiritualité. Maintenant, c'est pour ça qu'on fait des korbanot. C'est quoi un korban? C'est une vache. Encore, il n'y a pas plus matériel que ça. C'est quoi un sefer Torah? C'est une peau de vache. En vérité, si on regarde bien, c'est une peau de vache qu'on a tannée. C'est une vache. Peut-être même plusieurs vaches. C'est assez long le sefer Torah. Hein, c'est plusieurs vaches. D'accord? Plusieurs vaches attachées les unes après les autres. Comme ça, on a écrit avec de l'encre. Vous savez, c'est quoi l'encre qu'il y a sur le sefer Torah? Quelque chose qui a été brûlé. C'est ou du roseau, d'après certains, ou de la noix de gale, d'après d'autres, etc. Il y a plusieurs manières de faire l'encre. En attendant, c'est quelque chose qui a été cuit, brûlé. C'est complètement matériel. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas écrit Stam du matériel. On a écrit la parole divine dessus. Donc, on a élevé maintenant la matérialité qui était les vaches et le roseau ou la noix de gale qu'on a brûlé à l'état de quelque chose de complètement sain et qui est complètement séparé. On ne peut pas dormir dans un endroit où il y a un Sefer Torah. D'accord? Parce qu'il y a un respect à avoir envers ce Sefer Torah. Donc c'est séparé de tout ce qui se passe, des plaisirs de ce monde-là et de toutes les bêtises de ce monde-là. Et le Beit HaKnesset, c'est la même chose, Rabotai. Maintenant, il y a un grand problème au Beit HaKnesset, c'est que comme on vient très souvent prier, et des fois les tefilotes, elles sont très longues, alors des fois, on va raconter notre vie à notre voisin d'à côté. On va commencer à parler. Et à dire n'importe quoi. Et si on commence juste à parler, alors ça va encore, même si c'est déjà interdit et c'est très grave. Mais après, on risque de dire même des très grosses bêtises dans le Beit HaKnesset. Et là, donc, je vous ramène un Rav qui est un contemporain, qui est le fils du Rav Ovadia Yosef. D'accord ? Le Rav David Yosef, le fils du Rav Ovadia, il a écrit un livre qui s'appelle Halakha Brura, ici, ouais, selon l'ordre du Shulchan Aruch. Et quand on arrive sur ce traité là, sur cet article là, il va nous expliquer tout l'article et il va nous donner des précisions sur l'importance des choses. Ah bon, il vous fait tout le résumé de la dracha que je vous ai fait maintenant. Et après, il nous dit ici comme ça. C'est assez long quand même. Il nous dit ici comme ça. Issur kalut rosh ba bet knesset. L'interdiction d'avoir de la légèreté d'esprit dans le Beit HaKnesset. Il nous dit, il nous ramène le Zohar, qui parle de ceux qui font n'importe quoi au Beit HaKnesset. Au Beit Zohar HaKadosh, il fligou me'od bechomer ha'issur shel dibure divrei chol be'Beit HaKnesset. Dans le Zohar, ils se sont beaucoup étendus, les sages dans le Zohar, pour expliquer la gravité de celui qui dit des choses profanes dans le Beit HaKnesset. C'est quoi profane? Ça peut être même tes problèmes d'argent. Ça s'appelle profane au niveau du Beit HaKnesset. D'accord? On va voir dans la suite, il va nous préciser. Va'amru man de mishta'e bebek nishata. Donc celui qui parle dans la synagogue des paroles de chol, bemilin de chol, dans des paroles de profane. Va'ile. Malheur à lui. D'Arze Perouda. Parce qu'il se sépare. Kélou, il se sépare de l'endroit. Ouais. Continue, il nous dit. Va'ile de Gara Mehemana. Mehemanuta. Malheur à lui parce qu'il a été Gorem. Il a endommagé la Emouna. De quelle Emouna on parle? De la Emouna que ici siège à Kadosh Baruch Hu. Du fait qu'il se met à parler comme ça dans le Beit HaKnesset de n'importe quoi, il considère qu'ici il n'y a pas de roi. Et il enlève la Emouna aux autres qu'ici il y a un roi. Va'ile delet le chulaka be'elaha d'Israël. Malheur à lui qui n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. D'arze de'u let le'elaha. Parce qu'il est en train de montrer qu'il n'a pas de Dieu. Vele ishtakartaman, vela ishtakartaman, velet le chulakabe, vela dechelmine, vehinig kalana betikuna ilaa deleila. Pourquoi? Donc parce qu'il montre comme si qu'il avait pas de Dieu. Et il n'y a pas Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans cet endroit. Et du coup, il n'a pas de part en ce Dieu. et il n'a pas peur de lui, et il est en train de faire honte à l'endroit et de détruire les mondes spirituels supérieurs. Donc quelqu'un qui prononce des paroles profanes à l'intérieur du Beth Knesset, voilà ce qu'il est.
Justement, le fait d'insister sur la shrina qu'on doit, sur la concentration qu'on doit avoir dans le Beth Knesset, avec Beth Amikdash quand elle a été créée, tout ça, de la présence d'Hachem, ça nous fait pas un peu oublier que Hachem il est partout, justement, pas juste dans le Beth Amikdash, on peut faire un truc. Le fait d'insister justement sur ce point, à ce point-là, ça peut...
La preuve en est, tu n'as pas le droit de te promener habillé n'importe comment, même dans la rue.
Ouais, d'accord, mais juste d'insister...
Il est partout, mais il est moins dehors. Oui, il est moins dehors.
Non, bah, il est moins dehors. C'est sûr, c'est marqué,
bien sûr.
Comment on peut dire il est moins dehors quand on parle d'Hachem? C'est une infinité, on ne peut pas parler de moins quand on parle...
Bien sûr, on parle que sa présence, elle se dévoile moins dehors.
Ouais, elle se dévoile.
Elle se dévoile moins, elle est plus dévoilée ici.
Elle est là. Elle est peut-être moins dévoilée, mais elle est là. Alors justement, ça nous faut...
Je ne veux pas rentrer comment Hachem il a créé le monde, j'ai déjà...
Mais
que ta question, elle dépend de ça. Bichra, comment il peut y avoir un monde si Hachem il est partout? Comment il peut y avoir un monde? Puisqu'il remplit tout. Elle est où la place de faire un monde? Au passage, c'est ta réponse, mais ce sera après le cours si tu veux. C'est ça? Maintenant, donc, il nous dit quoi, hein? Il faut pas maintenant, toutes ces choses-là, quelqu'un qui montre maintenant qu'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans la synagogue, parce qu'il se comporte mal dans la synagogue, il arrive mal habillé. Il arrive pas de sa noix, il a un regard hautain à l'intérieur de la synagogue, Hachem Ishmor. Il est en train de dire, Hachem il se trouve pas là. Ma, tu as le roi des rois du monde, de l'univers entier, celui qui t'a créé, celui à qui tu dois la vie, et tu rentres la tête haute. Devant ton père, tu rentrerais pas comme ça. Devant le président de la République, tu rentrerais pas comme ça. Tu oserais pas parler devant le président de la République. Tant qu'il t'autorise pas à parler. Nahon, si tu étais debout devant lui, tu parlerais? Pas intérêt, tu aurais peur que les gardes ils te prennent et te foutent à la porte. Imagine devant un roi qui a le droit de vie et de mort sur toi. Au Maroc. Demande à un Marocain s'il s'amuse à parler quand le roi passe dans la rue. Même pas en rêve. Même pas en rêve, il s'amuse à parler. Et toi, tu es devant Hachem. Trois fois par jour, on t'a demandé de venir parler à Kadosh Baruch Hu. Tu as cette chance-là d'être un juif. De pouvoir parler avec Kadosh Baruch Hu. De pouvoir t'unir avec lui dans un Beth Knesset. De pouvoir le rejoindre. D'avoir un lien profond avec lui. Et tu gâches ce lien. Tu es en train de dire, ici, il n'y a pas Hachem. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne parle pas pour vous, encore une fois. Tout ce que je dis, c'est aussi pour moi. C'est pas... On a tous des problèmes là-dessus. Tous au Beth Knesset, on arrive et des fois on est fatigué, on a envie de se reposer, on a envie de machin, et etc., etc. On se comporte pas avec le comportement qui est digne d'une synagogue. Et il nous dit que même le Harizal, d'accord, le Harizal, donc tout le monde connaît le Harizal, il faisait attention que même dans le Beth Knesset, même de dire du moussard aux gens, ou de leur faire des réprimandes sur le fait qu'ils se comportent mal, il faisait attention de ne pas le faire à la synagogue de peur d'en arriver à parler d'autre chose. Il attendait d'être dehors de la synagogue pour lui dire, tu sais, tu as fait ça, c'est pas très bien, machin et tout. Mais dans la synagogue, il ne le faisait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'en arriver à parler d'autre chose que de la Torah. Et on nous dit encore, il nous dit comme ça, « Védivre chol », donc c'est quoi maintenant les paroles profanes qu'on ne doit pas dire dans la synagogue? Même s'il parle des besoins qu'il a, de ses besoins financiers, et toutes ces choses-là qui sont en vérité des mitzvot, c'est une mitzvah d'amener la parnassa à la maison. D'accord? Tu vas parler de ton shalom bayit avec ton rav à l'intérieur de la synagogue, c'est un problème. Tu vas parler de tes problèmes de parnassa à ton rav à l'intérieur de la synagogue, c'est un problème. Ça s'appelle divrei chol, tu n'es pas en train d'étudier la Torah. D'accord? Vechol sheken kishimedaber sicha betela mamash. Et à plus forte raison s'il parle des choses qui ne servent vraiment à rien. L'OM. Ouais? Ou PSG, c'est la même chose. Ça ne sert à rien. Royalement. D'accord? Et les joueurs, ils ne servent à rien. Ceux qui les regardent, ils ne servent à rien. Et d'en parler, ça ne sert encore moins à rien. Ouais. Pourquoi? Parce que chez Yesh les Isur basé à Filou Mechotz la Bet Knesset. Je traduis pas. Ve en Tsarich Lomar, chez Imsah Divre la Shonara, Ve Rechilut, ou Mahaloket, Ve Chayotse basé chez Gadol Avonou Minso. Et il n'y a pas besoin de préciser que si maintenant il a dit du Lashon Hara ou de la médisance à l'intérieur de la synagogue, où il a commencé à faire des disputes dans la synagogue et tout ce qui y ressemble, d'accord, on connaît tous les Bate Knesiot. On a tous grandi dans certaines synagogues où il y a tous les Shabbatot, il y a une bagarre. Et pourquoi tu fais monter celui-là? C'est un Marocain. Et non, lui c'est un Algérien. Et t'as... Gadol Avono Minso. Elle est tellement... Elle est très très lourde de sa faute à porter. C'est devant Hachem que tu commences à faire le bébé. Rahman al-Islam. J'étais dans une synagogue et Rabotai, il n'y avait que des religieux. Que des Kharedim comme ça, avec un chapeau pire que ça. Ouais. C'est faire Torah ouvert. Bar mitzvah. D'accord. Le père du bar mitzvah, devant le Sefer Torah, il a frappé le gabaï de la synagogue. Celui qui s'occupe de la synagogue. Chapeau, machin, Macaralo. Parce qu'il a dit à son fils, attends avant de lire. Il y a une mitzvah de prendre ses clics et ses claques à les prier ailleurs. On reste pas dans un endroit pareil. Il n'y a plus Hachem. Ça y est, il est parti. Bamakom, il s'enfuit. Bamakom, il s'enfuit. C'est la même chose que si tu pries chez toi. Et si tu restes, ça veut dire qu'en plus, tu es d'accord avec cet abruti fini. Tu restes, tu fais comme si de rien n'était, juste tu les sépares. Vas-y, tu t'en vas. Il y a des synagogues, Rabotai. Tous les Shabbatot, c'est la même chose. Ça vient pas au coup. D'accord? Ça n'arrive pas au coup. Mais les insultes, les blagues de mauvais goût, les machins, les ci, les là. Et les réflexions sur le rabbin. Et il sait pas chanter celui-là. Ah, tais-toi. Pourquoi tu viens prier? Bichlal, tu as fait partir. Viens pas, il aurait mieux fallu que tu restes dehors. Qu'est-ce que tu viens faire dans la synagogue pour enlever la présence d'Hachem?
Il y aura tout le temps quelqu'un comme ça dans la synagogue, alors qu'on ne va plus dans la synagogue.
Hein?
On va plus à la synagogue.
Non, il faut lui faire comprendre que oui, il se calme ou, non, il va prier ailleurs.
Une synagogue où il y a 300 personnes.
Ah, ça fait lui faire tchouva, tu lui expliques gentiment comment ça se passe.
Non, mais c'est forcément, c'est qu'il y a bien quelqu'un que même si on ne sait pas c'est qui, il y a forcément quelqu'un qui va faire quelque chose. Et on ne va plus à la synagogue.
À ce moment-là, maintenant, après, en priant, Hachem, la shrina, elle revient. Mais n'empêche que sur le coup, maintenant, ce type-là, il est gorem des fautes très graves. Maintenant, Rabotai, il y a un Magen Avraham. Il est très très dur. Combien de temps il reste? 1 minute. Magen Avraham, il est très très dur. Et il nous dit comme ça. Ici sur le Shulchan Aruch. Kalut rosh ba'avon ze nefachin abatech nesiot lebet akum chas v'halila. À cause du fait qu'on dit n'importe quoi dans les synagogues, Hachem, il nous punit que la synagogue va devenir une église. Combien de synagogues sont transformées en églises en France? Il y a une choule à Aix-en-Provence d'où je viens. Il y en a une, c'est devenu un temple protestant. D'accord? Et une, c'est devenu une mosquée. Et en vérité, c'est un petit peu le verset qu'on a vu dans Vaïkra. Parce que le verset, il dit... Je vais détruire vos mikdashrem. C'est quoi je vais détruire? C'est pas forcément je vais le détruire physiquement. Il y a forcadé. Il y a plus de shrina. Et c'est pas une punition, Rabotai, c'est une conséquence. C'est une conséquence. L'admour de Gour, je vais dire ça, peut-être ça risque de choquer des gens, mais l'admour de Gour, sa chassidoute, c'est une des chassidouyotes qui a été le plus touchée pendant la Shoah. D'accord? elle a été une extermination chimique totale. Ouais. Aujourd'hui, c'est la plus grande race d'Hutu au monde. À l'époque de la Shoah, c'était encore plus que ça. Mais ça a été une des races d'Hutu qui a été le plus massacrée par les nazis. Il a dit, quand ils sont sortis de la Shoah, il a dit comme ça, vous savez pourquoi les Sfaradim n'ont pas été touchés pendant la Shoah? Pourquoi Hitler, il n'a pas réussi à faire ce qu'il a fait en Europe, il n'a pas réussi à le faire dans le bassin méditerranéen alors qu'il est arrivé là-bas? Comme ça, il pose la question. Parce qu'il ne parlait pas dans les synagogues. Comme ça, lui, il a répondu, lui qui sort des camps. C'est pas un Sfarad qui l'a dit, c'est l'Admour de Gour. Il a dit parce que eux, les Sfaradim, quand ils sont à la synagogue, ils avaient le respect de la synagogue. Alors que nous, on commence à raconter notre vie. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a pas protégés alors qu'eux, il les a protégés. Eux, ils respectaient ma maison, je les ai protégés. Eux, ils respectaient moi et ma maison. D'accord ? Shaniske Be'ezrat Hashem, de pouvoir s'imprégner de ça, de faire très attention quand on est au Bet HaKnesset pendant la Chazara, c'est pas la peine de commencer la discussion là au bord de la fenêtre. D'accord ? Elle n'est pas faite pour ça, la fenêtre. Ceux qui veulent aller parler, qu'ils sortent du Bet HaKnesset. Qu'ils sortent. Ça sert à rien, ça sert à rien. Vous endommagez l'endroit. Pas vous, Chazara, il n'y a personne ici qui fait ça. Mais les gens qui font ça, ils endommagent l'endroit. On n'est pas là pour parler, on est là pour parler à Hachem, pas pour gâcher le temps, pour perdre le temps, parler à son copain. Parle à ton copain, tu as des couloirs, tu as 4 étages de couloirs dans la synagogue, dans la yeshiva, ça va? Tu as des rues pour ça, pour parler. Pourquoi? Juste pendant la chazara du Shaliach Tzibour, d'un coup, tu as envie de raconter ta vie. Mais à table, tu lui racontes pas ta vie, dans la chambre, tu lui parles pas, juste pendant la répétition de la Hamida, d'un coup, tu as envie de parler. Makar Alecha. Le Yetzerara, Asien Yetzerara, plus il y a de Yetzerara, plus ça veut dire que la mitzvah elle est importante. Donc plus c'est dur, plus ça veut dire il faut que tu te battes. Parce que la mitzvah elle est importante. Chez Niske Bezrat Hashem, pour pouvoir respecter nos sanctuaires.